Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Après l'attaque massive de l'Iran, la vie reprend son cours à Tel Aviv. Les rues ne sont plus désertes. Les habitants ont quitté leurs abris pour reprendre leurs habitudes. La ville a retrouvé son ambiance paisible, même si les sirènes d'alerte et les détonations sont encore dans toutes les têtes. Israël qui n'écarte pas pour le moment l'hypothèse d'une riposte. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, a promis de faire payer le prix à l'Iran. Du côté de Téhéran, le président a estimé s'être vengé de l'attaque menée contre le consulat iranien à Damas il y a deux semaines. Ebrahim Raïssi a promis une réponse décisive et encore plus forte si le régime sioniste ou ses partisans faisaient preuve d'un comportement imprudent. Pour contrer l'offensive iranienne, Israël a pu compter sur de nombreux soutiens, dont celui de la France. Invité dans le 20h de France 2, Stéphane Séjourné a justifié les actions d'interception de drones menées par l'armée française en Irak et en Jordanie. Le ministre des Affaires étrangères a également annoncé la convocation de l'ambassadeur iranien. Enfin, Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité devant les lieux de culte et les écoles juives. Au vu de la situation au Proche-Orient, le ministre de l'Intérieur a notamment demandé la présence de gardes statiques aux heures d'entrée et de sortie des élèves. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews et merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Après l'attaque massive de l'Iran, plus de 300 drones et missiles envoyés dans la nuit de samedi à dimanche, les Israéliens ont repris leurs habitudes. À Tel Aviv, les rues ne sont plus désertes, les habitants ont regagné les terrasses. La ville, surnommée la Bulle, a retrouvé son ambiance paisible. Sujet de Marie-Victoire Dieudonné.
Le journal à la main, les Israéliens tentent de retracer le fil de la soirée. À Jérusalem, détonations, sirènes d'alerte, puis arrivée de drones et de missiles envoyés par l'Iran. L'immense majorité a été interceptée et les dégâts sont minimes. Mais pour cette habitante de Tel Aviv, la situation est inacceptable.
Je suis heureuse que personne n'ait été blessé et que nous ayons un bon système de défense en Israël. Mais il ne devrait pas en être ainsi du tout. Nous ne devrions pas vivre dans la peur, nous ne devrions pas être attaqués comme ça.
Il y avait des centaines de missiles en direction d'Israël et des missiles de défense. C'était super effrayant. C'était une matinée très difficile.
Pourtant, au lendemain de l'attaque, les terrasses ne désemplissent pas et la vie a repris son cours. Une évidence pour certains, après plus de 6 mois de conflit contre le Hamas.
Je pense que plus rien ne m'effraie après le 7 octobre. Je pense que le retour à la normale est quelque chose de vraiment nécessaire, aussi pour mon âme. Je pense que nous devons être là, comme pour leur montrer que nous n'avons pas peur.
C'est bizarre, mais j'ai l'impression que cela fait partie de la réalité. Ce n'est pas agréable, mais cela n'a pas changé ma vie. Cela ne m'a pas surpris, disons-le comme ça.
S'il veut riposter, Israël dispose des moyens pour frapper très durement l'Iran. Mais le gouvernement devra alors s'opposer à son allié historique, les États-Unis, qui ne veulent pas d'une escalade.
Et à Téhéran, l'attaque menée par les gardiens de la Révolution reste un motif de fierté, une riposte nécessaire qui a permis, selon les Iraniens, de venger les Gazaouis opprimés par l'État sioniste. On écoute.
Nous sommes extrêmement heureux de cette attaque des gardiens de la Révolution. Désormais, on se sent mieux, parce qu'il fallait aider et accompagner ce peuple opprimé à Gaza et en Cisjordanie.
Il est normal d'être inquiet dans cette situation, que ce soit d'un point de vue social ou économique, et malgré les sanctions que nous avons, le fait que l'Iran ait pu atteindre ce niveau de capacité militaire avec des missiles furtifs est une question de fierté.
Nous sommes fiers et honorés qu'une réponse dure et cassante ait été donnée au régime sioniste.
Vraiment, la tristesse et la colère étaient dans le cœur de chacun d'entre nous et nous attendions que cette vengeance soit exécutée et que les Israéliens soient punis pour leur brutalité. Nous ne pouvions pas y croire lorsque la nouvelle est tombée hier soir.
Et en Cisjordanie, les Palestiniens ont suivi de près l'attaque iranienne contre Israël. Mais ont-ils approuvé l'envoi de missiles et de drones? Voient-ils cette offensive comme une marque de soutien à Ramallah? Vous allez le voir, les avis sont partagés.
La réponse iranienne est arrivée tard, après 190 jours de guerre. Israël frappe des pays alliés de l'Iran, comme la Syrie, l'Irak ou tout autre pays. La réponse est tardive et insuffisante.
Il n'est pas logique qu'un drone atteigne Israël au bout de 7 heures. L'Iran a lancé 170 drones. Comment est-ce possible que 170 drones aient été abattus avant d'atteindre Israël? Cela n'a aucun sens.
L'attaque de l'Iran contre Israël ne nous concerne pas vraiment. Nous sommes déplacés et nous ne nous soucions pas de ce genre de choses, qu'il s'agisse ou non d'une simple mise en scène.
Après l'offensive iranienne, de nombreux pays veulent désormais éviter l'embrasement au Proche-Orient. Les États-Unis ont d'ores et déjà désapprouvé une éventuelle riposte d'Israël. Alors que compte faire le gouvernement de l'État hébreu? On écoute Benny Gantz, membre du cabinet de guerre.
Face à la menace iranienne, nous mettrons en place une coalition régionale et ferons payer le prix à l'Iran de la manière et au moment qui nous conviennent. Et surtout, face à la volonté de nos ennemis de nous nuire, nous continuerons à nous unir et à devenir plus forts.
Et du côté de l'Iran, le président a estimé s'être vengé de l'attaque menée contre le consulat iranien à Damas il y a 2 semaines. Ebrahim Raisi a promis une réponse décisive et encore plus forte si le régime sioniste ou ses partisans faisaient preuve d'un comportement imprudent. Juste après le début de l'opération Promesse Honnête, le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, lui, avait affirmé avoir puni le régime diabolique. Ce dimanche, l'ayatollah a une nouvelle fois réitéré ses propos.
Attaquer notre consulat, c'est comme attaquer notre sol. C'est ce qui est courant dans le monde. Le régime malveillant a commis une erreur dans cette affaire. Il faut le punir et il le sera.
Pour le moment, impossible donc de savoir comment la situation va évoluer au Proche-Orient. Alors faut-il envisager une riposte israélienne, une nouvelle attaque iranienne, voire un retour du statu quo? Je vous propose d'écouter l'analyse de notre consultant défense, Bruno Clermont.
Est-ce qu'il y aura une deuxième attaque? C'est pas impossible, mais c'est peu probable. Et quelle sera la réponse des Israéliens? Et là, vraiment, les Américains cherchent absolument à calmer le jeu et à souligner le fait que finalement, les dégâts sont mineurs, les dégâts physiques sont mineurs sur l'État d'Israël. Ce n'est pas du tout l'intérêt de l'Iran de déclencher un conflit avec les États-Unis. Ce n'est pas non plus le conflit d'intérêt des États-Unis. Donc on sent bien que le jeu des deux côtés, l'Iran a sauvé la face en lançant cette opération qui a fait peu de dégâts finalement. Donc tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. L'Iran sauve la face, Israël est peu touché et l'objectif c'est d'éviter une escalade.
Réunis en urgence, en visioconférence, les membres du G7 ont apporté ce dimanche leur soutien à Israël. Dans un communiqué, tous ont unanimement condamné l'attaque iranienne et appelé les deux pays à la retenue. Les dirigeants internationaux se sont également engagés à fournir une aide humanitaire supplémentaire aux Palestiniens à Gaza. Lui était invité du 20h de France 2. Stéphane Séjourné a également évoqué l'offensive iranienne. Le ministre des Affaires étrangères a condamné cette attaque sans précédent, annoncé la convocation de l'ambassadeur iranien. Il a également justifié les actions d'interception de drones menées par l'armée française en Irak et en Jordanie.
Nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale. Nous avons des bases en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis notamment. Et l'attaque iranienne ne mettait pas que en cause Israël, mais également porter atteinte à la sécurité de nos forces et violer l'espace aérien également de nos partenaires arabes, qui sont les Jordaniens et l'ensemble des pays arabes avec qui nous avons des accords. Et donc dans ce cadre-là, oui, nous avons agi en conséquence et nous avons participé à des actions d'interception notamment.
Autre réaction du gouvernement, celle de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité devant les lieux de culte et les écoles juives. Il a notamment demandé la présence de gardes statiques aux heures d'entrée et de sortie des élèves. Et si le conflit entre l'Iran et Israël est d'actualité, l'inimitié entre les deux pays ne date pas d'hier. Depuis 30 ans, Téhéran est accusé par l'État hébreu de mener des attaques indirectes, notamment depuis l'étranger. On fait le point avec Juliette Saadat.
Ces attaques indirectes de l'Iran, elles remontent à 1992. Ça s'est passé à Buenos Aires, en Argentine. L'ambassade d'Israël fait l'objet d'un attentat. Bilan 29 morts et plus de 200 blessés. Deux ans plus tard, en 1994, toujours en Argentine. C'est d'ailleurs le pire attentat de l'histoire de ce pays. Le bâtiment de l'AMIA, l'association mutuelle israélo-argentine, est attaqué. Résultat, 85 morts et plus de 300 blessés. Deux attentats attribués à la République islamique d'Iran, selon la justice argentine. En 2012, plusieurs attaques et tentatives d'attaques attribuées à Téhéran contre Israël ont eu lieu dans plusieurs pays, en Géorgie, en Inde et en Thaïlande. En Inde, par exemple, c'est une voiture de l'ambassade israélienne qui a explosé en pleine rue à New Delhi. Le premier ministre israélien, c'était déjà Benjamin Netanyahou à l'époque, avait accusé l'Iran d'utiliser des agents du Hezbollah pour orchestrer ces attaques. Téhéran avait à l'époque démenti. Plus récemment, en 2021, le 25 février, le MV Helios Rey, un bateau israélien qui transportait des véhicules et qui effectuait le trajet entre Dammam en Arabie Saoudite et Singapour, est touché par une explosion au large du Sultanat d'Oman. Là aussi, Israël accuse l'Iran. Téhéran dément. Quelques mois plus tard, le 29 juillet 2021, attaque en mer d'Oman contre un pétrolier géré par la société d'un milliardaire israélien. L'attaque fait deux morts, un Britannique et un Roumain. À l'époque, Israël, les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne et la Roumanie accusent Téhéran d'être responsable de cette attaque. Téhéran qui, une fois encore, a nié toute implication.
Et pour contrer l'offensive iranienne, Israël a pu compter sur son bouclier, le dôme de fer. Ce système de défense aérienne très sophistiqué a permis d'intercepter depuis 2011 des milliers de roquettes et de missiles lancés depuis l'Iran, Gaza, le Liban ou encore la Syrie. Alors comment fonctionne-t-il? Quel est son taux d'efficacité? Réponse avec Isabelle Piboulot.
En service depuis 2011, le dôme de fer a plus d'une fois fait ses preuves. Israël l'a d'abord développé seul, après la guerre du Liban de 2006, avant d'être soutenu financièrement par les États-Unis, fort d'un savoir-faire en matière de défense. Il se compose d'une dizaine de batteries, installées à proximité de la bande de Gaza, des frontières avec le Liban, la Syrie et autour des villes les plus visées, comme Ashkelon ou Tel Aviv. Chaque batterie comprend trois parties, un système de détection radar permettant de suivre 200 cibles par minute, un ordinateur qui calcule la trajectoire des roquettes entrantes et un lanceur capable de tirer une vingtaine d'intercepteurs pour abattre en plein vol des engins explosifs dans un rayon de 4 à 70 km. Coût de production total, environ 100 millions de dollars, chaque intercepteur coûtant entre 40 000 et 50 000 dollars à produire. À cela s'ajoute le système Arrow, destiné à contrer les missiles balistiques, et le système David Sling, qui repousse les attaques de roquettes ou de missiles à moyenne portée. Selon le concepteur israélien Raphaël, le dôme de fer a un taux d'interception d'environ 90%.
Retour en France maintenant à Montpellier. Manon Aubry a lancé officiellement sa campagne pour les élections européennes. Un meeting de la France insoumise dominé par la situation au Proche-Orient, marqué également par l'absence du leader du parti d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Tous les détails avec notre reporter sur place, Augustin Donadieu.
Manon Aubry, tête de liste à présenter ses deux candidats Rima Hassan et Anthony Smith devant moins de 1000 personnes ici à Montpellier ce dimanche. La France Insoumise qui a dévoilé pour la première fois son programme à travers différents discours largement dominés par la situation au Proche-Orient. Alors tous condamnent la riposte de l'Iran contre l'État hébreu tout en dénonçant, je cite, une Europe qui arme le régime génocidaire d'Israël. Nous devons décréter un embargo sur les armes, a annoncé Manuel Bompard, le coordinateur de la France France Insoumise. Ovation du public à cet instant dans le discours. Plusieurs drapeaux palestiniens sont alors brandis dans la salle. Lors de ces paroles entrecoupées de chants et de slogans pro-palestiniens, Manon Aubry et les deux candidats n'ont eu de cesse de répéter que le 9 juin prochain se joue en réalité l'après-Macron, comprenez, l'élection présidentielle de 2027 et à plus court terme, le poste de Gabriel Attal. Restera-t-il, oui ou non, à Matignon après ces élections européennes? Vous l'avez compris, la France Insoumise a bel et bien lancé sa campagne européenne, mais un seul absent ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon. Aucun discours, aucun mot, aucune vidéo à l'intention de ses compagnons de lutte, juste quelques extraits vidéo dans le clip de campagne diffusé devant ses moins de 1000 personnes ici à Montpellier ce dimanche.
Après l'attaque dans un centre commercial à Sydney en Australie qui a fait 6 morts et 8 blessés dont un bébé de 9 mois, l'identité de l'assaillant a été révélée. Contrairement à une rumeur sur les réseaux sociaux, l'assaillant n'est pas de confession juive. Joël Cauchy, 40 ans, est un Australien connu pour des troubles mentaux. Solène Boulan.
L'auteur de l'attaque au couteau, connu des services de police, a été signalé aux autorités par sa famille lorsqu'elle l'a reconnu à la télévision.
Un homme de 40 ans, originaire du Queensland, Joël Cauchy, a été identifié comme l'auteur de l'infraction. Nous poursuivons nos investigations à son sujet. Nous nous sommes entretenus avec sa famille, nous continuerons à le faire et il coopère avec nous.
Les autorités semblent désormais écarter la piste terroriste et se concentrent sur le profil psychologique de l'assaillant.
À ce jour, nous ne disposons d'aucun élément, d'aucune information, d'aucune preuve qui nous permette de penser qu'il s'agit d'un acte motivé par une idéologie ou autre.
By any particular motivation, ideology or otherwise, we know.
Nous savons seulement que l'auteur de l'infraction souffre de troubles mentaux.
6 personnes sont mortes durant l'attaque, une douzaine d'autres ont été blessées. Depuis l'attaque, les hommages se multiplient face aux actes héroïques de nombreux passants. Avant de succomber à ses blessures, une mère poignardée par l'assaillant a confié son bébé de 9 mois à un inconnu dans l'espoir de lui sauver la vie. L'Australie loue également la bravoure des commerçants qui ont ouvert leur boutique aux clients en panique, ainsi qu'à la policière qui a abattu l'assaillant.
À 100 jours des Jeux Olympiques, des étudiants logés par le Crous ont été expulsés de leur logement. Plus de 3200 appartements ont été réquisitionnés cette semaine pour pouvoir accueillir le personnel de la compétition sportive. En attendant d'être relogés, certains étudiants vivent ce déménagement forcé comme une injustice. Noémie Hardy.
Des camions remplis de cartons, des allers-retours des déménageurs. Les expulsions des étudiants dans les logements du Crous ont commencé cette semaine.
Le stress, c'était très compliqué. À plusieurs reprises, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais finir à la rue?
Le gouvernement l'a assuré. Aucun étudiant ne se retrouvera à la rue. Pour Jemima, son changement d'appartement s'est bien déroulé.
C'était assez rapide, le déménagement, etc. Mais je suis contente parce que déjà, le logement me plaît plus. Au niveau du loyer, c'est beaucoup moins cher. Je suis à 394 ici, alors que là où j'étais, c'était 512.
Ce n'est pas le cas de tous les étudiants. Et certains le vivent comme une injustice.
Parce que là, on s'en prend à nous, c'est ce qu'on ressent. On est expulsé de nos logements, on n'a pas trop le choix. Quand on n'a pas de quoi loger du personnel pour les Jeux Olympiques. Et puis, petit à petit, c'est un peu la fatalité de la décision. Donc on s'y fait et puis on se dit je vais trouver une solution en espérant que la solution ce soit de trouver un logement qui soit encore meilleur que le mien.
Ces réquisitions sont temporaires. Les étudiants concernés ont jusqu'à la mi-août pour décider s'ils veulent revenir dans leur ancien logement.
Allez, on passe tout de suite au JT Sport. On ouvre ce journal des sports avec la 29e journée de Ligue 1. Lyon s'est imposé 4-3 face à Brest. Les Lyonnais avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Corentin Tolisso. En deuxième mi-temps, le match devient fou. Steve Mounier égalise à la 60e minute. 4 minutes plus tard, Brest repasse devant grâce à Del Castillo. Ce même Del Castillo qui va s'offrir un doublé 2 minutes plus tard. À la 70e minute, c'est Alexandre Lacazette qui va réduire réduire l'écart d'une reprise sous la barre avant que Nicolas Tagliafico égalise pour les Gaunes. En toute fin de rencontre, l'OL obtient un pénalty après une faute du gardien brestois sur Lacazette. Victoire donc de Lyon, 4-3. Et puis direction maintenant la Première Ligue. Arsenal s'est incliné 2-0 à domicile face à Aston Villa. Les hommes de Mikel Arteta ont cruellement manqué de réalisme et perdent leur avantage dans la course au titre. Résumé du match signé Mathilde Espinasse.
Le fauteuil de leader en ligne de mire pour Arsenal. Les Gunners mettent le pied sur le ballon, mais la mauvaise relance de Gabriel est proche de coûter cher.
Watkins qui vient sur son pied droit, la frappe de Watkins sur le poteau et ce ballon qui sort.
Leandro Trossard répond dans la foulée, Martinez s'interpose. En seconde période, Arsenal souffre et s'expose. Bailey trouve finalement l'ouverture, puis Aston Villa enfonce le clou.
Watkins continue, le ballon piqué, but, Dolly Watkins. Arsenal assommé en 2-3 minutes.
Arsenal manque l'occasion de prendre les commandes de la Première Ligue.
Et un peu plus tôt ce dimanche, Liverpool s'est également incliné face à Crystal Palace 1-0. L'unique buteur de la rencontre se nomme Erebechi Eze. Avec cette défaite et celle d'Arsenal, c'est Manchester City qui devient le grand favori pour remporter le titre de Première Ligue. Et puis on termine ce journal des sports avec un mot de tennis et la finale du tournoi de Monte-Carlo. Ce dimanche, Stefanos Tsitsipas s'est imposé face à Casper Ruud en 2-7, 6-1, 6-4. Le grec n'a laissé aucune chance au Norvégien avec un premier set remporté en seulement 36 minutes. Après avoir remporté le titre en 2021 et 2022, Tsitsipas s'adjuge donc un nouveau titre en principauté. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais surtout restez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur la situation au Proche-Orient. Israël n'écarte pas pour le moment l'hypothèse d'une riposte du côté de l'Iran. On promet une réponse encore plus forte si le régime sioniste ou ses partisans faisaient preuve d'un comportement imprudent. A tout de suite.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.